Je pense qu'on sent bien la température ce matin. On est vraiment désolé pour ce chaleur qui nous manque. Le chauffage nous a lâché et donc on n'a pas pu faire grand-chose. De toute façon, on est là. On est là et on va utiliser le temps pour louer le Seigneur et pour écouter ce que le Seigneur il veut nous dire ce matin. C'est la parole de Dieu qui réchauffe notre cœur plus que le chauffage, que ce qu'on a besoin. Donc, le titre de cette prédication ce matin, c'est « Prière dans la perspective du royaume de Dieu ». La prière dans la perspective du royaume de Dieu. Donc, vous savez que depuis presque un mois maintenant, depuis le commencement de ce mois d'octobre, nous sommes en train de voir les différents aspects de la prière. Donc, on a vu plusieurs choses traitées par des autres frères. Et nous avons entendu la prédication sur comment prier. La prière, un commandement de Dieu. Le rôle des psaumes dans ma vie de prière. C'est le frère Timothée qui a fait cela. Et comment utiliser les psaumes dans notre prière, pour enrichir notre prière. C'était un mardi soir, si vous étiez là, on a vraiment profité de cette pensée. Et prière, c'est une intercession puissante. Et aussi la persévérance dans la prière. Comment persévérer dans la prière? La prière est son exaucement. Et ça, c'était la semaine dernière, par le frère Albert Andry. Le sujet est tellement vaste et exhaustif que nous ne pourrons pas tout voir dans seulement quelques semaines. Donc peut-être nous allons continuer encore sur le mois de novembre, sur ce sujet. Et aujourd'hui, nous allons voir la prière dans la perspective du royaume de Dieu. Parce que si nous allons poser les questions aux différentes personnes, chacun il a une façon de voir ce qui est la prière. Chacun, il a une façon de voir ce qui est la prière, selon lui. Mais en fait, qu'est-ce que c'est la prière? C'est comment Dieu voit la prière? Et est-ce que notre prière, il a une perspective sur le royaume de Dieu, sur la gloire de Dieu? C'est ça que nous allons voir. La prière est le moyen de communication, premièrement, établi par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous donne ce moyen de communication. Dieu est infiniment grand et nous sommes infiniment petits. Comment peut-il possible de communiquer avec un Dieu si grand? Est-il possible pour une fourmi pour avoir un lien de communication avec l'homme? Est-ce que vous avez jamais essayé de communiquer avec une fourmi? Non, on ne peut pas. Mais pourtant, vous voyez l'échelle, comment Dieu est là descendu à notre niveau pour avoir une communication avec nous. C'est impensable pour nous que Dieu saint, très saint, trois fois saint, peut pouvoir ce moyen de communication pour l'homme pécheur. Nous, les êtres humains, nous avons du mal à écouter la parole de ceux qui nous méprisent ou haïssent. Les enfants qui nous désobéissent. Mais c'est exactement comment l'homme a traité son Créateur, son Dieu. Le Seigneur qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même avant la fondation de ce monde, nous a trop aimés pour nous perdre. Si seulement Dieu n'est pas établi ce moyen de communication, nous aurions pu être perdus éternellement. Mais heureusement, Dieu est là. Il a pensé à ça. En effet, Dieu nous n'a jamais lâché, même si nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. La prière nous donne le moyen de communiquer avec Dieu, notre Père céleste. Quand l'homme tomba dans le péché, il perdit le privilège d'avoir une communication libre avec Dieu. Il a été envoyé loin du jardin d'Éden, où il vivait en communion avec Dieu. Même Dieu avait érigé une barrière pour mettre l'homme en dehors de sa présence. Non, ce n'est pas Dieu qui a mis la barrière. Enfin, c'est l'homme lui-même qui a érigé une barrière entre lui et son Dieu à cause de son péché. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas Dieu qui a mis la barrière. C'est l'homme lui-même, il a mis cette barrière. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comment l'obscurité et la lumière peuvent-elles demeurer ensemble? Comment le péché et la sainteté peuvent-ils vivre ensemble? Mais Dieu, notre Créateur, qui nous a aimés avant même la fondation de la terre, avait pensé à nous dans l'éternité et ne nous a pas abandonnés dans nos péchés. Il est venu nous chercher dans notre perdition. Alors il est-il entendit la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Je lis de Genèse 3. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ça, c'était la première fois que Dieu est là. Après la chute de l'homme, c'est Dieu qui approche l'homme. C'est Dieu qui a appelé Adam et Ève en disant, où êtes-vous? C'est peut-être le premier moment de la prière de l'homme après la chute. Même si la Bible ne nous donne, pas les détails de la communication entre l'homme et Dieu, nous savons qu'il a joui d'une communion constante avec Dieu. Avant le péché, l'homme il avait une communion constante avec Dieu. Encore une fois, quand Caïn tue son frère Abel, Dieu appelle Caïn et lui demande, où est ton frère Abel? Qu'as-tu fait? Regardez, c'est Dieu lui-même, il commence cette communication avec l'homme. Ce n'est pas l'homme. L'homme, il a péché, il se cache. Mais Dieu, par sa grâce, il vient vers l'homme pour commencer cette communication. Ce sont simplement des exemples de ce moyen de communication que Dieu donne à l'homme pécheur par sa grâce. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité, mais pourtant Dieu aime ses enfants, l'homme qu'il a créé. Grand est son amour. Dieu écoute les prières de tous ceux qui invoquent son nom. C'est merveilleux, n'est-ce pas? De tous ceux qui invoquent son nom, Dieu entend et il écoute les prières. Cette vérité dépasse notre compréhension. Comment un Dieu saint peut-il écouter les prières et les supplications des pécheurs? Jésus toucha les lépreux et guérit leur maladie sans même être contaminé par cette terrible maladie. Dieu est saint, mais quand il toucha le long pécheur, il n'était pas contaminé par le péché, il n'était pas contaminé par le lépreux. Mais du contraire, c'est la maladie qui s'est partie. Les péchés se sont pardonnés. Jésus, pendant sa vie terrestre, était parmi les publicains et les gens de mauvaise vie, et pourtant, il était pur et sans péché. Si la sainteté de Dieu lui empêchait d'écouter la prière d'un homme pécheur, la plupart d'entre nous ne serions pas là ici ce matin. Oui, c'est sûr. Si simplement la sainteté de Dieu peut lui empêcher d'écouter la prière des hommes pécheurs, quel aurait été notre sort? Donc, prière d'un enfant de Dieu, en quelle perspective? D'une manière générale, toute personnes qui étaient créées par le Dieu, toute créature. Dieu, il écoute leurs prières, mais pour un enfant de Dieu, il a une perspective autrement, assez différente. Comme nous avons vu auparavant, la prière est un merveilleux moyen de communication avec Dieu. Mais la prière de l'enfant de Dieu a totalement une autre dimension. D'un moyen de communication, ça devient un moyen de communion avec Dieu. Un moyen de communication, ça devient un moyen de communion avec Dieu, notre Père, qui est saint. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, 15. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Est-ce que nous croyons la parole de Dieu? De tout ce que Dieu dit dans sa parole. Et la parole dit que le Seigneur écoute, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Et parfois, on peut prier sans vraiment croire que Dieu peut nous entendre. Dieu peut nous répondre. Car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a une grande différence entre la prière d'un inconverti et un enfant de Dieu. Dieu a entendu la prière de pécheurs comme Zachée et de bien d'autres comme il en entend même aujourd'hui et il les sauve. Oui, Dieu entend la prière de ces deux, les inconvertis et les convertis. La prière d'un inconverti pour atteindre les oreilles, la prière d'un inconverti peut atteindre les oreilles de Dieu et celle de son enfant atteint le cœur même de Dieu. Quand un enfant de Dieu, il prie, ça touche le cœur de Dieu. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, seulement un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qu'il peut avoir cette perspective du royaume de Dieu. Autrement, ce n'est plus possible. Oui, un enfant de Dieu est celui qui naît de nouveau, né de l'eau et de l'esprit, ayant reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Tournez avec moi dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. C'est le passage que le frère Michel Auré il a traité. Matthieu chapitre 6, le verset 9 jusqu'à 13, où nous trouvons un modèle de prière enseigné par le Seigneur Jésus lui-même. Nous allons peut-être voir des autres aspects de cet passage. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ce n'est surtout pas une prière à répéter chaque jour jusqu'à la mort. Et ce que font beaucoup des hommes, c'est une prière qui nous aide à réfléchir et apprendre comment prier. C'est suite à la question d'un disciple que Jésus donna cet enseignement pour prier. Donc cette prière est donnée pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour des inconvertis. Si nous regardons attentivement, nous allons voir plusieurs choses qui peuvent changer complètement notre perspective dans nos prières. Cette prière commence ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Oui, en tant que enfants de Dieu, nés de nouveau, des disciples de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, nous avons acquis ce privilège de pouvoir nous adresser à Dieu, notre Père. Mais c'est impensable hein, de pouvoir appeler Dieu comme notre Père. Mais seulement, quand nous sommes nés de nouveau, on peut comprendre la profondeur de ces mots, notre Père. Nous pouvons appeler Dieu notre Père seulement par le statut que nous avons reçu par l'amour de Dieu. Le Père nous a témoigné. Je lis de 1 Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. La parole qui nous affirme que nous sommes ses enfants, parce que le Père, il nous a aimés autant. Et il nous appelle les enfants de Dieu. C'est par ce statut que nous avons reçu ce droit d'appeler Dieu notre Père. Et chaque fois que nous adressons Dieu notre Père, nous n'avons jamais oublié qu'il est aux cieux. Il est aux cieux. Parce que le verset, il commence ainsi, notre Père qui est aux cieux. Dieu, il est notre Père, mais en même temps, il est aux cieux. Les deux vont ensemble. Dieu est notre Père, mais il est aux cieux. Il ne faut jamais oublier que Dieu est Dieu. Même s'il est notre Père, il reste Dieu à la fois. Et il est notre Père céleste. Nous sommes ici-bas sur cette terre et Dieu est au-dessus des cieux. Qu'il est le Tout-Puissant, très saint, Dieu souverain, créateur de toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a créé toutes choses, qui règne sur toutes choses. Il est souverain, mais pourtant, j'ai le droit d'appeler Dieu mon Père, notre Père. Et pourquoi notre Père? Pourquoi pas mon Père? Le Seigneur Jésus, il voulait nous apprendre que quand nous adressons Dieu notre Père, nous sommes ensemble avec les autres enfants de Dieu. Nous sommes une famille. On n'est pas seul. Donc quand j'adresse à Dieu, quand je dis notre Dieu, je ne pourrai jamais oublier mes frères et sœurs qui sont là avec moi, qui sont à qui le même statut que moi. Je ne suis pas sauvé tout seul pour pouvoir appeler Dieu comme mon Père, mais j'appelle le notre Père en pensant à tous les enfants de Dieu qui sont acquis ce privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père. Un caractère de Dieu ne peut jamais cacher un autre caractère de Dieu. Parfois, on peut prendre un caractère particulier de Dieu. Bon, j'appelle le Dieu mon Père, mais j'oublie que Dieu, il est aussi le roi. On parle de la grâce de Dieu, mais on oublie que Dieu, il est juste. Il va nous juger. On parle de l'amour de Dieu, mais on oublie une autre qualité de Dieu. Dieu, on ne peut pas prendre ce qu'on aime avec Dieu. Dieu est tel qu'il est. Alors nous devrions, quand nous adressons à Dieu, nous acceptons la souveraineté de Dieu en toutes choses. Notre Père qui est aux cieux, sentons-nous l'impact de ces mots pour nous? Nous qui étions sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, de pouvoir appeler Dieu notre Père. L'homme charnel qui ne connaît pas la nouvelle naissance ne peut jamais adresser Dieu à Dieu, mon Père qui est aux cieux. Il faut être né de nouveau, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème. Je continue. que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Tout ce qui a été créé pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que l'homme peut prononcer devant un Dieu glorieux et saint que des paroles en adoration? Qu'est-ce que l'homme peut prononcer devant Dieu glorieux des choses qu'il ne peut pas quand on agenouille pour prier, quand on commence à prier, on ne peut pas oser à dire des choses selon notre volonté. Mais tout ce qu'on peut dire à Dieu, ça devrait être une adoration. On ne peut pas dire autre chose. Nous ne pouvons pas nous ramener plus bas de ce que nous sommes déjà. On peut dire qu'on devrait s'humilier devant Dieu, mais en même temps, on est le plus bas. Et nous ne pouvons pas augmenter la sainteté de Dieu. On ne peut pas ajouter la gloire de Dieu. On dit qu'on glorifie Dieu, mais par les mots, on ne peut pas ajouter quelque chose à la gloire de Dieu. Dieu est glorieux. Dieu est déjà saint. On ne peut pas ajouter quelque chose à la majesté et à la gloire de Dieu. Dieu est Dieu, il n'est comparable. Que ton nom soit sanctifié. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Exode 19:6. Un enfant de Dieu qui vit dans la désobéissance, ne peut nullement sanctifier le nom de Dieu. Un enfant de Dieu qui vit dans la désobéissance ne peut nullement sanctifier le nom de Dieu. Mais c'est facile à répéter cette prière. Bon, souvent, nous disons que Dieu, je te glorifie, je sanctifie ton nom. Mais est-ce que nous vivons pour la gloire de Dieu? Est-ce que ma vie, la semaine passée, était pour la gloire de Dieu? Est-ce que je sanctifie le nom de Dieu? On sait que Dieu réprimande Moïse et dit que tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple d'Israël. Par conséquent, un enfant de Dieu qui prie s'efforce constamment dans sa vie pour honorer le saint nom de Dieu dans tout ce qu'il dit et qu'il fait. Il doit être rempli d'un désir ardent de sanctifier le saint nom de Dieu, son Père céleste. Le fils prodigue dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Quand nous péchons contre Dieu et Dieu seul. Et aussi le roi David, quand il a commis le péché, il dit, « J'ai péché contre toi seul. » On ne peut pas avoir de double vie, on ne peut pas vivre dans le péché et venir à l'église pour dire que je vais à l'église pour glorifier Dieu, mon Seigneur. Ça ne marche pas. Bien sûr, nous comprenons que l'impact du péché peut avoir dans notre vie de prière. Quand nous sommes dans le péché, on ne peut pas prier. Qu'est-ce que c'est que d'être saint, de vivre une vie séparée de ce monde, consacré à Dieu et à Dieu seul? Qu'est-ce que le péché? Tout ce qui me sépare de Dieu, c'est le péché. Ou autrement dit, manquer le but d'une vie sainte est le péché. on a la tendance de condamner les péchés, on dit que ça ce n'est pas grande chose. Mais tout ce qui peut déranger Dieu, c'est un péché. Et je ne peux pas adresser Dieu comme mon Père, et je ne peux pas dire que je glorifie Dieu et continuer dans le péché. Le nom de Dieu est sanctifié quand les pécheurs se repentent et se tournent vers Dieu. C'est ce que nous devrions faire constamment. Bien sûr que nous péchons. Je ne parle pas du fait que rester dans le péché constamment. Il faut demander pardon à Dieu pour le péché que nous sommes conscients. Le nom de Dieu est sanctifié lorsque des enfants de Dieu vivent une vie sainte sur cette terre. Et Jésus, sur le sermon sur la montagne, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » On peut dire de belles choses, on peut parler de belles paroles. On peut dire que je suis chrétien. Je peux prier en haute voix, diriger la congrégation pour glorifier Dieu. Mais ce qui est important, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Le nom de Dieu est sanctifié quand les disciples marchent dans l'obéissance à sa parole. Et quand on dit que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous devrions marcher dans l'obéissance. Nous devrions marcher dignes de l'évangile que nous annonçons. Sinon, on ne sanctifie pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu est sanctifié quand Dieu est adoré par ses saints sur cette terre. Le nom de Dieu est sanctifié ce matin quand nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu que nous adorons Dieu dans la sainteté. Par contre, le nom de Dieu est déshonoré quand les chrétiens qui portent le nom de Christ marchent dans la désobéissance dans le monde. En Romains 2, 24, nous lisons « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Réfléchissons. « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » Que je suis digne de porter de ce nom de Christ. Le chrétien, il était appelé chrétien pour la première fois dans l'Église primitive. Pourquoi? Parce qu'il suivait Jésus-Christ, le Seigneur. Et c'est pourquoi il s'appelait chrétien. Mais ici, Paul, il dit que le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Est-ce que je suis la cause que le nom de Dieu soit blasphémé parmi les païens? Le troisième commandement a dit... Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Et nous nous appelons chrétiens, nous appelons disciples de Christ. Nous disons que nous sommes croyants, qui croient en le vrai Dieu. Est-ce que nous désobéissons à ce troisième commandement? Que nous prenons le nom de Dieu en vain? Continuons avec ce passage. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Dieu est souverain. Il règne éternellement. Nous savons. Et en Chronique 29, 11 dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Ce verset décrit le statut de Dieu. Dieu, il est éternellement souverain. Il règne pour toujours. Même quand l'homme il a chuté, l'Éternel a continué à régner sur toutes choses. Notre prière devrait montrer notre désir pour le royaume de Dieu. Premièrement, dans notre cœur, dans notre vie, et ensuite dans la vie des autres et dans le monde. 1 Corinthiens 4, 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Quand on dit le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement la parole, mais vraiment en puissance. Quand nous prions, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, cela peut signifier deux choses. Premièrement, ça montre notre désir pour le retour du Seigneur Jésus, Jésus-Christ, quand il établira son royaume sur cette terre. Et deuxièmement, cela parle de son royaume qui est déjà dans ce monde. Jésus, quand il est venu pour la première fois dans le monde, il a fait cette déclaration de son gouvernement en Matthieu 5. Nous avons vu il y a quelques mois, dans le sermon sur la montagne. Et ce royaume est invisible pour le monde. Quand Jésus il déclara son royaume, il a dit la béatitude, ce royaume qui consiste à ses disciples est invisible pour le monde. Le monde, il ne peut pas voir ce royaume. Mais son royaume existe sur la terre. Il existe dans le cœur des croyants, des chrétiens, ses disciples. Et cet royaume invisible est visible aujourd'hui dans son Église. Et ce royaume est spirituel. Dieu règne dans le cœur de ses enfants, ses disciples dans son Église, qui est son corps. Regardons ensemble 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 9 à 12. Le premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9 à 12. 1 Pierre 2, 9 à 12. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Regardez chaque mot de cet verset. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce, l'adorateur royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que la même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Le monde est soumis au régime de Satan. Le monde, il est régné par le diable. Nous voyons partout, ça suffit d'ouvrir les yeux et les oreilles, on voit partout, nous savons que le monde, il est sous le régime de Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, dit 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. nous le savons, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jésus a dit à son Père, en Jean 17, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Jésus, il est en train de parler de son disciple, il est en train de parler de nous. Nous ne sommes pas de ce monde. Et tout ça, tout ce que nous voyons ici, ça devrait nous influencer de manière que nous prions. Et souvent, la prière, c'est « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». On demande, on va avec une liste, comme si on allait faire la course dans le supermarché pour obtenir quelque chose de Dieu. Mais est-ce que c'est le but de prière? Le but de prière, c'est pour glorifier Dieu, pour honorer son nom, pour vivre dans la sainteté. Mais si nous ne sommes pas attentifs, on peut glisser dans les choses parce que nous sommes largement influencés par les choses du monde. Et aussi, en Philippiens 3, 20, nous lisons, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, notre cité, nous allons dépenser notre éternité, pas dans ce monde, mais nous allons quitter ce monde qui est régné par le diable. Nous sommes des étrangers et voyageurs. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. C'est vrai? Je ne sais pas combien de personnes vous êtes d'accord avec moi quand la Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Mais, en même temps, regardez ce que nous avons fait pendant toute la semaine. Est-ce que nous étions en train de chercher les choses que, ou ramasser les choses que nous n'allons pas amener avec nous? Si vous êtes étranger et voyageur, si vous visitez une ville dans le monde, vous n'allez pas ramasser les choses quand même. Vous allez penser aux kilos, hein? Hein, souvent, l'avion, il ne laisse pas avec beaucoup de kilos. Donc, on va penser aux kilos. Comment je vais porter? Et qu'est-ce que je vais porter? Mais pourtant, on est en train de ramasser des choses ici. Sanctifier le nom de Dieu. Et dire que ton règne vienne. Nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que je ne sais pas combien de personnes ont vu la feuille de nénuphar. Cette plante, elle pousse dans les étangs, dans l'eau. Hein. Mais c'est dans le boue. Mais la fleur, elle fleurit sur la surface de l'eau. Et les feuilles sont très, très grandes. Et jamais l'eau, elle peut coller à ses feuilles. C'est la vie de chrétien sur le monde. Il devrait être comme une gouttelette d'eau sur la feuille de nénuphar. Nous sommes là, mais les choses du monde ne devraient pas nous atteindre. Imaginons qu'un citoyen français va aller pour vivre à l'étranger. Sa manière de vie, sa façon de parler et agir sera selon ses coutumes de sa partie. En français, il restera en français. Hein? Même s'il va aller vivre en Inde ou en Afrique, en français, il restera en français. Dans une certaine manière, il va se conduire comme un ambassadeur de son pays. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Quand nous allons partir dans un pays, chacun nous représentons notre pays, dans le pays étranger. Et en train de communiquer consciemment ou inconsciemment ses coutumes et des valeurs de sa patrie. Et nous, en tant que citoyens célestes et étrangers voyageurs sur cette terre, sommes-nous en train de communiquer les valeurs et la gloire du royaume de Dieu? Nous essayons de s'intégrer dans ce monde. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Est-ce que nous parlons tout le temps avec ce monde de la valeur que le Seigneur nous a donnée? Est-ce que nous sommes en train de parler de cité céleste que nous aspirons de partir? Mais quel est le sujet de notre conversation, bien souvent? Un étranger, un voyageur ne peut jamais assimiler le coutume et de la culture du pays où il séjourne. On parle d'intégration en France parce que les gens, ils viennent, ils restent, ils veulent vivre ici. Là, il faut une intégration. Mais on ne peut pas demander à quelqu'un qui visite le pays, un voyageur, un séjourneur, qui séjourne, d'être assimilé aux coutumes de ce pays. Et nous sommes, la Bible nous appelle, nous rappelle que nous ne sommes pas d'ici. Nous sommes des simples voyageurs et nous sommes étrangers. Si vous êtes chrétien et quelqu'un... cette vérité est très bien exprimée par quelqu'un ainsi. Je vais lire. Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas un citoyen de ce monde qui essaye d'arriver au ciel. Vous me suivez? Si vous êtes chrétien, vous n'êtes pas un citoyen de ce monde qui essaye d'arriver au ciel. Mais vous êtes un citoyen du ciel qui fait votre chemin à travers de ce monde. Vous voyez la différence? Mais ce n'est pas vrai, parce que souvent, on essaie de faire comme si que on essaie d'échapper de ce monde pour aller au ciel. Non, nous ne devrions pas être à l'aise avec ce monde. Hein. Si vous êtes trop à l'aise, si nous sommes trop à l'aise avec ce monde, il y a un problème. Il y a un problème. Parce qu'on ne peut pas être à l'aise avec beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais hélas, beaucoup pensent qu'ils sont de ce monde qui essaie d'arriver au ciel un jour. Le chrétien est quelqu'un qui a ses pieds sur cette terre et sa tête au ciel. On est là. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui a ses pieds sur cette terre, planté sur cette terre, mais sa tête, il est toujours dans le ciel. Que ton règne vienne. Avez-vous un ardent désir pour le royaume de Dieu? Est-ce que ça reflète dans notre prière, notre ardent désir d'aller au ciel, pour dire que Seigneur vient, que ton règne vienne? Mais on parle de deuxième événement. Déjà, le royaume de Dieu est là. Est-ce qu'il prend toute la place dans mon cœur, le royaume de Dieu? Où trouvez-vous encore le plaisir dans ce monde? Êtes-vous en train de chercher le plaisir dans ce monde? Un enfant de Dieu qui vit dans la désobéissance ne peut désirer le règne de Dieu. Nul royaume peut avoir deux trônes et deux rois. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Rappelez-vous que nous sommes en train de voir tout cela dans la perspective de notre prière. L'homme n'est pas fait pour vivre seul et sans Dieu. La prière nous rappelle notre dépendance de Dieu. Imaginons, on n'avait pas ce moyen de parler avec Dieu. Est-ce que vous avez imaginé quel sera notre sort si on ne peut pas dire quoi que ce soit à Dieu? On ne peut pas dire notre dépendance à Dieu? La prière nous rappelle notre dépendance de Dieu. Un chrétien qui ne désire pas la volonté de Dieu, ici-bas, sur cette terre, sera malheureux au ciel, car dans le ciel, tout sera selon la volonté de Dieu. Vous voyez? Au ciel, c'est sûr et certain que la volonté de Dieu sera faite, parfaitement. Et un chrétien qui ne désire pas la volonté de Dieu dans sa vie, ici-bas, sur cette terre, qui sera mal à l'aise au ciel, qui sera étranger au ciel. Je suis d'accord que la vie sur cette terre est difficile pour un enfant de Dieu. Et je vis comme vous tous. C'est difficile, la vie sur cette terre. C'est difficile d'être un chrétien dans le métro quand c'est bondé. Hein? Quand il y a la grève, c'est difficile de vivre cette vie comme chrétien dans le monde. Mais pas seulement ça, mais nous savons tous, hein, on est dans le même bateau. Mais ici, le Seigneur est en train de nous préparer pour la vie céleste. c'est sur cette terre, le Seigneur, il est en train de nous préparer pour la vie céleste. Il n'y a pas un autre moyen. Sinon, le Seigneur, il aurait pu nous prendre directement. Mais il n'y a pas un autre moyen. Et ensuite, nous lisons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et bien sûr, ça parle de la nourriture physique aussi. Le pain, on a besoin de manger. Et plus que ça, je pense que ça parle de nourriture spirituelle qu'on a besoin. On a tant besoin pour vivre les épreuves, pour vivre dans le monde, pour vaincre la tentation. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que c'est vrai? On peut demander pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu tous les jours. Mais si nous ne pardonnons pas les offenses des autres, le Seigneur était très clair. Il a dit, tu devrais aimer ton prochain. Et encore plus loin, il a dit, tu devrais aimer ton ennemi. C'est facile à pardonner nos amis. Mais si vous avez des ennemis, si vous considérez quelqu'un comme un ennemi, d'abord, vous ne devrez pas. Et est-ce que nous avons aussi cette capacité de pardonner de la part du Seigneur? Parce que le Seigneur nous a pardonné. Il a pardonné les impardonnables, comme vous et moi. Pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus lui-même, il dit, quand il était tenté, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Et ce passage, il termine ainsi, car c'est à toi qui appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et c'est Dieu qui devrait régner. Il règne sur le ciel, sur les cieux, dans les cieux. Il règne dans le cœur des chrétiens. La question ce matin, c'est est-ce qu'elle règne dans mon cœur véritablement? Est-ce que j'ai cédé toute la place à mon Seigneur puisqu'il peut me régner? Il peut régner sur moi. Et il va régner éternellement. Si je ne donne pas la place, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui est le perdant. C'est moi qui est le perdant. La puissance et la gloire, il appartient à Dieu. Mais parfois, on pense que nous pensons que on est très puissant, on est capable de faire beaucoup de choses. Et non, nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit. Seulement le Seigneur, il est capable de faire toutes choses. Et Jésus l'a dit en Matthieu 6, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et la question ce matin, c'est dans mes prières, est-ce que j'ai cette perspective de chercher premièrement le royaume de Dieu? Premièrement, dans ma vie, après dans la vie des autres. Après, je peux parler pour la terre. Et chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est très difficile, hein? On appelle le Dieu d'amour, mais rarement on appelle le Dieu de justice, parce que nous savons que nous ne pouvons pas être debout devant le Dieu de justice. Et pour faire cette prière, nous devrions être juste devant Dieu. Mais ce qui est vrai, que personne n'est juste devant Dieu. et seulement par le sang de Jésus-Christ nous sommes justifiés. Si seulement Jésus-Christ il n'est pas mort sur la croix, à ma place, je ne serais pas justifié. Et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et on peut prier, il n'y a pas de mal de prier à Dieu pour des choses matérielles même. Parce que nous devrions faire savoir à Dieu tous nos besoins. Et nous avons besoin d'argent pour vivre sur la terre, mais nous avons besoin de la nourriture pour survivre. Mais il faut faire connaître à Dieu tous nos besoins. Mais premièrement, quel est le but de notre prière? Est-ce que c'est pour glorifier Dieu? Ou notre prière, il est remplie de « Seigneur, pardonne-moi ». Mais notre prière, premièrement, ça devrait pour glorifier Dieu et prier pour son royaume de la justice. Et là, nous aurons, c'est la garantie, hein. C'est Jésus lui-même, il a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Un grand prédicateur, D.L. Moody, il a dit ainsi, la prière ne signifie pas que je suis pour amener Dieu vers le bas à mes pensées et mes buts. Et plier son gouvernement, c'est selon mes idées stupides. Stupides et parfois pécheuses. La prière signifie que je dois être élevé dans le sentiment, dans l'union et le dessein avec lui, que je dois entrer dans son conseil et mener à bien son plan. Je ne sais pas combien j'ai exprimé, j'essaie de traduire de l'anglais. La prière ne signifie pas que je suis pour amener Dieu vers le bas à mes pensées et à mes buts. Et plier son gouvernement selon mes idées stupides. Et souvent, notre volonté, nous savons que ce n'est pas très intelligent. Et on peut prier pour beaucoup de choses, mais nous ne voyons pas toutes choses. Mais Dieu, il est en train de faire comme si qu'il est en train de tisser un grand tapis. Il voit comment ce sera un jour. Et nous, nous voyons, d'une part, nous ne voyons pas le grand plan de Dieu et comment il agit. Mais c'est pourquoi nous devrions prier à Dieu que sa volonté soit faite dans notre vie comme il est fait et s'est fait au ciel. Prions. Amen.